Chapitre 27. Le passage du diable ? Il éclata de rire et me dit « C'est là que les gentilshommes de la maison venaient déambuler en jurant et en proférant des malédictions. » Il avança de trois pas et se mit à frapper ses poings l'un contre l'autre avec fureur. J'eus terriblement peur, jusqu'au moment où je compris qu'il faisait seulement semblant d'être hors de lui. « Que le diable l'emporte » cria-t-il. « Envoyez ces hommes en enfer ! Que lui et toute sa famille soient maudits jusqu'au dernier descendant !» Puis, reprenant progressivement un ton normal, il ajouta gaiement « Ce genre de choses, tu vois, des propos à faire rougir les dames. » J'étais sidéré. Voulait dire que quelqu'un a fait pousser ces immenses haies de hêtres uniquement pour pouvoir y marcher chaque fois qu'il était en colère? Exactement. Ainsi, nous autres, les hommes impulsifs et belliqueux, lorsque nous n'avons pas l'occasion d'aller guerroyer ici ou là, nous pouvons fuir la maison, courir vers ces chemins secrets, piétiner furieusement le gravier, cracher et jurer jusqu'à ce qu'enfin calmé, nous puissions retourner voir nos épouses, pétries de bonnes manières. » Cela le mit tellement en joie que j'eus envie d'en rire avec lui. Rejetant la tête en arrière, je tendis les mains et dis d'une voix de femme au perché « Vous sentez-vous mieux à présent, cher trésor ?» Prenant la balle au bond, il répondit sur le même ton « Je suis redevenu moi-même, merci mon ange !» Nous éclatâmes de rire en cœur. Et dès lors, j'eus vraiment le sentiment qu'il était prêt à tout pour me rendre sa compagnie agréable. Il m'emmena sur un chemin où nous marchâmes longtemps pour me montrer une famille de blaireaux. Nous reviendrons une nuit pour les regarder s'ébattre, Daniel. C'est un spectacle étonnant. Il me montra où les champignons allaient sortir à la fin de l'été. Il fit l'effort de m'expliquer comment les lièvres se comportaient au clair de lune. Pourtant, il ne semblait pas mesurer l'effet que pouvait avoir sur moi certains de ses propos. C'est ici que ta mère s'est ouvert le genou et a saigné comme un cochon qu'on égorge. Ou encore, tu vois là-bas ce buisson de ronces. Eh bien, Liliana prétendait que c'était celui qui donnait les mûres les plus juteuses. Combien de fois je l'ai vu se hisser sur la pointe des pieds pour remplir son panier. Et ça, Daniel, c'est le chêne creux dans lequel ta mère passait les journées entières à se prendre pour un écureuil. Ce que j'ai pu me moquer d'elle, avec le recul aujourd'hui, j'ai honte d'avoir été aussi suffisant. Que croyait-il donc? Que tous mes sentiments avaient été enterrés avec ma mère? Je restais les yeux rivés sur ce chêne. Elle avait passé ici des heures à donner des coups de pied dans les feuilles mortes, à abîmer son tablier en grimpant aux arbres et à se cacher dans les troncs creux. Je la voyais presque là, la main en l'air, en train de sourire à... pas à moi en tout cas. Les larmes me montèrent aux yeux et l'image devint floue. Au moment même où le capitaine s'impatientait de me voir ainsi, le regard dans le vague. « Que regardes-tu ainsi? Que vois-tu ? » Comme je me tournais pour cacher mes larmes, j'entendis un bruit dans les feuilles, et j'aperçus de nouveau une ombre furtive. C'était encore le même jardinier aux cheveux grisonnants. À tout autre moment, j'aurais pu sauter sur l'occasion pour questionner mon oncle à propos de ces étranges serviteurs qui semblaient toujours occupés à m'espionner, cachés derrière les portes ou des arbres, mais je savais que ma voix tremblerait encore, car je n'arrivais pas à chasser les images de ma mère en train de s'amuser chaque été dans cette demeure. Je me ravisais donc, et bien que mes jambes eussent de plus en plus de mal à me porter, je fis l'effort de suivre le capitaine qui voulait m'emmener plus loin, toujours plus loin, vers la rivière. Au milieu d'un grand champ, il me montra du doigt une trace noire sur un énorme cèdre tombé. C'est un coup de foudre qui l'a abattu, et ça devait être quelque chose d'effrayant pour anéantir un pareil géant. Vous n'étiez pas là quand ça s'est produit? Non, non, tu as en face de toi un vieux loup de mer, comme on n'en fait plus, tu sais. À l'époque, dans l'espoir de faire fortune, Jack Severn, ici présent, avait fait place à Jacques Tar. Vous aviez pris la mer? Exact. Aussitôt, son visage s'assombrit. Le malaise que j'avais éprouvé peu de temps avant revint avec force. Je ne me sentais décidément pas en sécurité avec cet oncle tempétueux, si aimable à certains moments, si brusque à d'autres. Peut-être, pensais-je, a-t-il toujours été d'humeur changeante, depuis tout petit, et sa dure vie de marin a dû accentuer encore cette tendance et faire de lui un homme impatient et bourru. S'exaspérant de me voir marcher aussi lentement, le capitaine accéléra ostensiblement le pas. « Et cette vie ne vous manque pas ?» lui demandai-je pour tenter de le retenir. « Oh non, ma vie de marin m'a beaucoup appris, mais elle est derrière moi, et c'est tant mieux » lança-t-il par-dessus son épaule avec une extrême fermeté, comme pour s'en convaincre lui-même. Ensuite de quoi, sa voix se réduisit à un murmure. Comme je hâtais le pas pour le rattraper, j'entendis ces derniers mots qu'il prononçait pour lui seul, et non à mon attention. Mais moi, oh, je me prépare un tout autre avenir. Je ralentis tout de suite pour le laisser seul. puisqu'il semblait vraiment se croire seul. Mais lorsqu'il se retourna, il avait toujours cet air sinistre. Que voulait-il dire par un tout autre avenir? S'il tenait tant à ses rêves d'enfant, pourquoi restait-il dans cette maison comme un scarabée mort enfermé dans une bouteille, pour reprendre ses propres mots? Pourquoi n'était-il pas en train de courir le monde pour amasser la fortune dont il rêvait? Qu'attendait-il donc? Qu'est-ce qui le retenait ici ?